Vous vous apprêtez à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Saveur de la Finitude, le podcast qui prend l'horreur au sérieux. Avant de commencer un petit tour de table virtuel, parce qu'évidemment les conditions étant ce qu'elles sont, nous avons enregistré ce podcast à distance, et avant même de parler du sujet de ce premier épisode, je ne vais pas commencer par vous dire ce que sera La Saveur de la Finitude, parce que nous-mêmes nous le savons pas vraiment, mais par contre je vais pouvoir vous dire ce qu'il ne sera pas. On n'a pas l'intention dans ce podcast, même si évidemment nous allons le faire comme ce sera parfois nécessaire, de parler des œuvres, soit des livres, des films, des jeux vidéo, en tant que telles ou en tant qu'œuvres, parce que déjà ça, beaucoup d'autres personnes le font très bien. Il y a énormément de podcasts, d'émissions sur le cinéma de genre notamment, qui sont de très grande qualité et avec lesquelles on n'a pas la prétention de rivaliser, mais aussi parce que ce qui nous intéresse vraiment et ce qui est un peu notre hypothèse de travail dans tous les thèmes qu'on va aborder dans cette première saison du podcast, c'est que l'horreur, et l'horreur sous la forme qu'elle prend aujourd'hui, on va dire ce qu'on pourrait appeler l'horreur matérialiste, c'est-à-dire l'horreur sans dimension surnaturelle, l'horreur telle qu'elle existe depuis Lovecraft, elle dit quelque chose de notre monde, elle dit quelque chose de notre rapport au monde, et c'est ce rapport au monde-là qu'on va essayer d'interroger, c'est-à-dire se demander, justement, s'il n'y a pas là-dedans quelque chose à prendre au sérieux, au-delà du côté de littérature de divertissement, qu'il n'est pas question de nier ou de mépriser, hein, pas du tout, mais la littérature d'horreur, la littérature fantastique, c'est une branche de la métaphysique, comme disait Borges, et ça peut être intéressant d'essayer de la prendre au sérieux et de voir ce qu'elle nous révèle de façon parfois pas si métaphorique que ça, en fait. Sur ce, il est temps de commencer ce grand tour de table. Alors, par ordre alphabétique, nous allons commencer par Guillaume Béchelier. Alors Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ?
Bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter de présenter et de justifier mon niveau d'expertise, n'est-ce pas ? Donc, je suis chercheur spécialisé dans les arts plastiques. Je travaille notamment, voire même essentiellement autour de la question de l'horreur, dans le champ de la production d'images. Et mon objet d'étude, c'est généralement, très généralement, le jeu vidéo. Donc voilà un tout petit peu mon profil.
Alors, à la page suivante de mon grand trieur par ordre alphabétique, j'ai Lucille Bocobza.
Bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai un profil un petit peu en arborescence. Je suis philosophe de formation avec 2 années de préparation à l'agrégation à mon actif et je suis aussi musicienne. Mais je me suis reconvertie cette année pour travailler dans l'astrobiologie. Donc ça veut dire que mon rapport à l'horreur est plus de l'ordre de la fiction et également de mon amour inconditionnel pour Schopenhauer, Lovecraft et Stephen King. Pour ne citer que.
Jean-Christophe Dardard est avec nous également.
Bonjour, donc je suis psychologue, je travaille surtout avec des enfants, des adolescents, donc on peut dire que parfois je vois l'absurde et l'horreur dans des formations de rêves particulières. Sinon, je travaille sur le zombie essentiellement, et en fait j'ai découvert Lovecraft dans ma toute prime jeunesse et ça m'a amené à Freud. C'est très proche en fait.
Donc voilà, entre ceux que Lovecraft a amené à Schopenhauer et ceux que Lovecraft a amené à Freud, on est parfaitement dans le sujet. Et enfin, last but not least, Julie Le Baron.
Oui, salut tout le monde. Je suis journaliste. J'écris essentiellement sur l'astronomie, le cinéma et les jeux vidéo, donc notamment pour Ciel et Espace, Canard PC et Libération. Et dans ces 3 domaines différents, j'arrive constamment à parler d'horreur. Je ne sais pas si ça suffit à justifier mon expertise, mais au moins mon intérêt.
Oh, je pense que ça la justifie largement, oui. Et pour finir, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter dans toute cette histoire. Donc je suis Ambroise Garel, journaliste, je travaille notamment pour Canard PC, et j'ai eu l'honneur et la joie de réunir toute cette petite bande. Et pour ce premier épisode, nous avons choisi un sujet qui, sous ses airs de ne pas y toucher, ou peut-être de toucher à tout, parce que c'est un sujet qui agrippe tout ce qu'il touche, comme nous le verrons, est extrêmement riche de sens et va constituer une parfaite introduction. Ce sujet, c'est, vous l'avez peut-être deviné, le tentacule. Donc pourquoi le tentacule ? Alors à la fois pour son caractère de symbole, et même aussi de non-symbole, comme on le verra, parce que le tentacule, c'est un peu l'image d'Épinal aujourd'hui de l'histoire d'horreur, il a un peu remplacé le crâne, hein, ce que le crâne était dans l'horreur gothique au XIXe siècle, le tentacule l'est aujourd'hui. Dès que vous parlez de Lovecraft, dès que vous parlez d'horreur ou d'abomination, aujourd'hui vous avez le tentacule qui est un symbole utilisé même dans les logos quasiment de tous les jeux de rôle ou les jeux vidéo d'horreur. mais aussi parce que le tentacule est extrêmement riche de forme et de sens. Et que, de par justement son absence de forme ou sa capacité à prendre des formes extrêmement variées, de par ce qu'il évoque en nous, il est peut-être vraiment le point commun, le point central de presque tous les sujets que nous allons évoquer dans ce podcast sur la question des limites du langage que pose l'horreur, sur la question du rapport au corps, sur la question du rapport même à la réalité, à la matérialité. Donc nous allons parler du tentacule pendant une heure aujourd'hui, et nous allons le faire en bonne compagnie, puisque pour la première lecture de texte, nous serons accompagnés par Victor Hugo et par un extrait des Travailleurs de la mer, un texte de 1866, qui est lu par Lucille Bocobza.
Les Travailleurs de la mer, de Victor Hugo. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dards, pas de pinces, pas de queue prenante ou contendante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglé, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce que donc la pieuvre ? C'est la ventouse. Une forme grisâtre oscille dans l'eau. C'est gros comme le bras et long d'une demi-aune environ. C'est un chiffon. Cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous peu à peu. Soudain, elle s'ouvre. 8 rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a 2 yeux. Ces rayons vivent. Il y a du flamboyement dans leur ondoiement. C'est une sorte de roue. Déployée, elle a 4 ou 5 pieds de diamètre. Épanouissement effroyable. Cela se jette sur vous. L'hydre harponne l'homme. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre, en dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnéide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. Ses nœuds garrottent, son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène. C'est de la maladie arrangée en monstruosité.
Alors, ça, le texte est complètement dingue. On dirait vraiment du proto-Lovecraft. C'est complètement fou comme texte. C'est pas pour rien qu'il est souvent cité, d'ailleurs, on l'a vu pendant nos recherches, hein, souvent cité en référence sur le texte de l'horreur. Et c'est un texte qui est intéressant parce que ça montre quand même une certaine... Bon, on va avoir une sorte de cohérence avec la pieuvre d'aujourd'hui, on pourrait dire. Mais c'est aussi... on va en reparler avec cet élément, justement. C'est une absence de forme, c'est mou et c'est horrible. Mais c'est aussi, on trouve aussi des traces d'une idée un peu traditionnelle, parce que la pieuvre a toujours été présente dans beaucoup de mythologies, et parfois de façon assez positive. Alors je crois que Guillaume avait des choses à dire à ce sujet, notamment.
Tout à fait. C'est ce qu'on vient de voir dans le texte de Victor Hugo, c'est quand même à rattacher à un certain basculement du rapport à la mer qui a lieu au XIXe siècle. C'est quelque chose qui a été très bien analysé par Alain Corbin dans un très bon ouvrage que je vous conseille, qui est Le territoire du vide, qui est un formidable ouvrage sur l'appropriation et la vision qu'on peut avoir de l'espace de la mer. Bon, tout ça pour dire que on voit bien qu'il y a une bascule qui est faite dans le contenu, dans l'approche. Là, on a chez Victor Hugo bien évidemment quelque chose qui relève du romantisme et qui va noircir cette vision de la mer et de l'animal, mais faut bien imaginer que cet animal, malgré son côté étrange, qui je pense de tout temps à jamais, comme on le dit dans les mauvaises copies de philo, a toujours eu l'air étrange, mais on a quand même malgré tout des ouvrages, des textes, notamment dans la pensée grecque, chez Oppien, des textes qui vont souligner l'intelligence du poulpe, et ça c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel travaillent les biologistes actuellement, c'est un animal qui est prodigieusement intelligent. Et l'aspect tentaculaire, l'aspect polymorphique du poulpe, c'est quelque chose qui va très tôt être vu comme un talent, véritablement une capacité d'adaptation, une capacité qui... Alors là, je vais vous citer, j'ai mes petites notes sous les yeux, Jean-Pierre Vernant, le grand Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, qui, dans leur ouvrage sur la ruse dans la pensée grecque, parlent du poulpe comme étant un animal qui possède un talent qui est celui de d'être capable à la fois de se procurer grâce à ses capacités mimétiques et ses capacités de tentaculaires, quoi, qui leur permettent d'attraper tout ce qui les intéresse, à la fois de se procurer des aliments et de se soustraire à la mort, donc d'éviter le piège des pêcheurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très tôt, et le poulpe est considéré, et ceci dit, ça peut avoir un lien avec ce côté obscur, hein, c'est considéré comme un maître de l'illusion. Alors, sachant qu'il y a un petit détail quand même à fournir, c'est que dans ces textes, il y a parfois la confusion qui peut être faite entre le poulpe et la sèche. Parce qu'il y a les capacités de mimétisme, il y a ça chez le poulpe, mais dans les textes, parfois, avec la sèche, il y a un petit mélange. C'est à précision SVT.
Oui. Voilà. On parlera plus tard de Melville et de Moby Dick. On verra que Moby Dick, au niveau de la typologie, est plus carré, on va dire, dans l'approche.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Victor Hugo, notamment avec ce passage, il avait été critiqué par un malacologue donc, qui étudiait la science des mollusques, Henri Cross, qui s'était un peu ému du fait que les céphalopodes se voient calomniés de la sorte. Dans le sens où, alors non content de ne pas montrer l'intelligence du poulpe, il le dépeignait comme quelque chose d'absolument affreux. Et Bernard Heuvelmans, qui est zoologue et aussi père de la cryptozoologie, en a beaucoup parlé dans son livre « Dans le siège des monstres marins », où il y a un sous-titre, une partie que je vous recommande vivement, qui s'appelle « Le poulpe est-il moins agressif qu'une citrouille ?» Justement,
le titre est très bien.
Ouais, le titre est très bien. Une espèce de plaidoyer en défense du poulpe, quoi. Il décrit justement ce passage donc du combat de Gilead contre la pieuvre comme un enchaînement. Enfin, c'est comme tu disais un peu du proto Lovecraft, quoi. Une surabondance d'adjectifs, de descriptions. Lui, c'est des cascades d'hyperboles, une imagerie somptueuse où le lecteur se laisse enivrer peu à peu par le simple cliquetis et brassage des assonances. Et c'est exactement ça, quoi.
Et ça, on va beaucoup en parler, la question notamment de l'usage des adjectifs, parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui échappe à la description. Donc le langage court après, hein. Oui. On va en parler de tout ça. Peut-être aussi sur les questions, puisqu'on est en train de faire on parlait de la pieuvre avant, de la pieuvre d'avant. Jean-Christophe, tu avais des choses sur aussi la question de la dimension ethnographique et dans les mythologies, parce qu'il n'y a pas que l'Occident ou le monde grec qui s'intéresse à la pieuvre.
Dans un article du Temps.sh qui s'appelle « Poulpe, un monstre devenu superstar », donc, tu vas à l'encontre de la tendance du poulpe anxiogène, c'est plutôt dire, ah bah maintenant, ça devient un animal sympa, on le mange de plus en plus, et de fil en aiguille, le journaliste évoque une citation de Catherine Armand-Courage, qui est une autrice d'un blog qui s'appelle Octopus Chronicles. Et dedans, il dit que selon la mythologie hawaïenne, le poulpe est le seul vestige vivant des incarnations antérieures du monde. Du coup, alors c'est très intéressant quand on s'intéresse à l'archaïque, la psychanalyse anglo-saxonne, bon, lancée par Mélanie Klein, qui est la grande figure de proue, a beaucoup travaillé l'archaïque et il y a un homme qui s'appelle Harold Searles qui a écrit l'environnement non humain. Et il a une théorie qui explique qu'en fait, plus on descend dans les stades de développement antérieurs, le plus ancien, plus en fait il y a de l'indifférenciation et plus les choses sont mixées. Alors ça, c'est assez sympa comme idée, mais son idée la plus intéressante, c'est qu'en fait, il faut garder une sorte de proximité avec cette non-différenciation pour être bien psychologiquement, en gros. Et que, en fait, quand notre identité et ses assises sont mises en danger, on a tendance à surinvestir la différenciation. Et donc, voilà, c'est un peu un plaidoyer. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est vraiment d'actualité, c'est que Searles, il a aussi théorisé les raisons qui font que on est une sorte dans les années 70, qu'on ait du mal à entendre le danger climatique, par exemple. Et pour lui, il pense que c'est un certain rapport trop différencié avec le non-humain.
Et c'est intéressant, ça rejoint, c'est pour ça que le tentacule est un excellent, et la pieuvre sont un excellent point d'entrée dans ce podcast, c'est que ça va rejoindre beaucoup de choses dont on va parler par la suite, notamment comme la question, oui, parce qu'on en parlera aussi, une des fascinations qu'il y a quand on descend dans les abysses, c'est qu'on évolue dans l'espace, mais quelque part, on évolue aussi dans le temps, puisque c'est, même si c'est pas totalement vrai, on a quand même tendance à remonter un peu l'arbre phylogénétique en descendant dans les profondeurs. Et oui, évidemment, la question de l'indifférencié et du non-humain, qui, parce que la pieuvre, c'est quelque part, on va le voir aussi, c'est l'étranger absolu, quoi. Ce qui explique aussi l'intérêt pour ces formes-là dans la weird fiction. Notez, alors, il y a un point qu'il va falloir qu'on... Il y a encore deux points intéressants pour en finir avec cette espèce d'archéologie de la pieuvre vue par les hommes. Ça va être, bon, évidemment, il y a la dimension d'abord politique. Ça, je crois que Julie, tu voulais en parler, parce que c'est vrai que la pieuvre, ça a été une métaphore, notamment au cours du XXe siècle, du XIXe dans une moindre mesure, une métaphore politique qui a été très très présente.
Oh oui, complètement, ouais. Ça a à la fois représenté les Américains, les communismes, les communistes et le nazisme. Vraiment, c'est toujours cette métaphore, en fait, d'espèce de créature tentaculaire qui vient s'emparer du monde. Observation que je me suis faite à l'instant et sur laquelle je n'ai pas cherché beaucoup de choses. Je suis désolée.
Et la dernière approche de la pieuvre, qui va justement nous amener quelque part à la rupture qu'il y a eu dans la pieuvre du weird, qui est d'une nature complètement différente, même si on s'en aperçoit pas comme ça en la regardant de prime abord, c'est que la pieuvre a été notamment investie sexuellement. Et ça, bon, évidemment, les gens forcément vont faire une blague si on parle de tentacules, donc il faut en parler. Il y a tout un imaginaire érotique et pornographique de la pieuvre.
C'est très intéressant parce qu'on associe le tentacule à un phallus et autres joyeuseries. Donc, si on regarde l'histoire des tentacules, enfin de l'érotisme de tentacules, on remonte à Hokusai avec sa fameuse estampe, j'allais dire peinture. Le rêve de la femme du pêcheur, donc 1814, et ça décrit une femme qui est allongée en extase avec un poulpe qui lui fait un cunnilingus et un autre qui est sur son sein, un plus petit. Il est presque mignon. ce qui est rigolo, c'est que la traduction française, elle est très orientée parce que ça sous-entend que c'est la femme du pêcheur et que c'est son rêve, alors que dans le titre original en japonais c'est Tokotohama, donc l'ama et le poulpe, et les amas c'est des pêcheuses qui pêchent en plus en plongeant dans l'eau, donc c'est des championnes de l'apnée après le passage en français à la réduite à la femme du pêcheur, alors qu'une femme peut être pêcheuse, mais bon.
Ouais. Ça révèle beaucoup de choses sur l'art occidental. Hein.
Oui, c'est... Et d'ailleurs, en 1905, on trouve une gravure d'un certain Martin Van Mill dans un ouvrage « La grande danse macabre ». Et en fait, on voit un chevalier avec une espèce de phallus, enfin, l'épée a même une sorte de gland au bout, et une femme qui est attachée par des tentacules, avec une tentacule qui la pénètre au niveau de son sexe et un au niveau de sa bouche. Donc on voit tout de suite qu'on est passé au phallus. Et j'étais obligé de le citer parce que c'est un peu le fleuron du hentai. C'est Urutsuki Dochi, donc sorti entre 87 et 89, de Tasho Maeda, qui est dans le tentacule porn le plus sale. Même s'il est bien animé pour un hentai. C'est assez intéressant parce qu'en fait, le phallus et le phallique, enfin plus précisément tout ce qui est pénis, c'est presque une lecture, on va dire, surajoutée par rapport à ce que montre Hokusai, en tout cas.
Mais moi, du coup, ce qui m'interroge, Jean-Christophe, c'est par rapport à la traduction du tableau dont tu nous parlais précédemment. On voit que la femme est devenue totalement passive, alors qu'à la base, elle est totalement active, dans le sens où elle est pêcheuse. Elle fait du sport pour arriver, elle fait une activité physique intense pour arriver à pêcher. Est-ce que tu aurais une explication, à part cette surinterprétation un petit peu trop masculine de la tentacule, sur pourquoi finalement les femmes sont à nouveau reléguées au rang de passivité, donc comme on a pu le voir dans les œuvres que tu as citées après, et jamais au rang d'agent actif.
C'est vrai qu'on serait tenté de parler de patriarcat, mais en même temps, la société japonaise, elle est quand même ultra patriarcale de ouf.
C'est une très bonne description.
Après, on peut dire que c'est Hokusai, donc c'est le choix d'un personnage. Je me suis dit peut-être en France, on savait pas ce que c'était un ama et on pouvait vraiment pas se dire qu'une femme pouvait être active dans la sexualité.
Ça aurait dû être la pêcheuse et le poulpe, si on.
Oui, voilà. C'est clairement, mais je pense qu'il y a une sorte de de réaction défensive qu'a forcé ça. Mais après, ça se trouve, c'était délibéré. Ça, là, par contre, j'ai pas fait de recherche sur le pourquoi et le comment ça a été traduit ainsi. C'est vrai que ça pose un vrai souci de dire, ah bah non, on peut. Surtout si on voit l'évolution de la gravure d'après, où la femme doit être sauvée par le chevalier.
Oui.
Là, elle est toute seule avec deux poulpes. Elle est, on trouve
On ne peut
sur
plus
la
passive.
gravure. Ouais, puis c'est dans un truc plus consenti. Puis on peut supposer qu'une femme pêcheuse avec des capacités d'apnée quand même plutôt hallucinantes, bah, elle est aussi une femme être des mers. C'est-à-dire, elle est un peu entre deux mondes, et je pense que ça faisait peut-être un peu trop à accepter, on va dire, une femme entre deux mondes, active, en plus, qui n'est pas dans forcément l'érotisme pénétrant, on va dire, qui est plutôt de dominante masculine.
Là où je m'interroge, c'est comment est-ce que le tentacule a commencé à être, enfin pour quelle raison en fait, au-delà de la forme phallique. Je suis vraiment curieuse de, parce que j'avais lu quelques analyses un peu, enfin analyses, quelques textes sur le tentacle porn où justement des critiques y voyaient une manière de, alors pas dans le cas d'Okusai, mais bien plus tard, comme une manière de, comment dire, de d'exorciser les tourments de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et je trouve ça assez étonnant de voir comment la figure du poulpe peut dépendre des lieux où elle est dépeinte. Enfin, nous, en France, c'est vraiment le poulpe en tant que monstre marin dans les romans d'aventure au moment du 19e où il y avait de plus en plus de chasse aux cachalots et d'expéditions scientifiques. De comment c'est arrivé et surtout comment c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'est encore un tout autre sujet, quoi, le tentacle porn.
Mais justement, parce que le tentacle porn, ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme tu dis, alors le cas est un peu différent dans le tableau d'origine où la femme est elle-même investie d'une dimension un peu entre deux mondes, et sa complicité avec le poulpe n'est pas uniquement sexuelle, en fait. Il y a autre chose, il y a une chose, une nature un peu magique. Mais dans tous les cas, que ce soit parce qu'on y projette un imaginaire pénétratif masculin, ou que ce soit pour l'intégrer dans un mythe, on est quand même dans la mythologie, on va dire, assez classique. Ce qui le différencie du poulpe, du weird, auquel on va arriver maintenant. Donc, ce qu'on appelle la weird fiction, c'est en gros toute la fiction, l'horreur matérialiste, en gros tout ce qui est en grosso modo démarré avec Lovecraft, hein, c'est-à-dire une fiction qui ne repose pas sur l'idée de ou d'une mythologie, ou de, enfin, une mythologie qui repose sur un panthéon, ou des choses comme ça très claires, ou des éléments surnaturels, on va dire, hein, mais une mythologie entièrement matérialiste. Et donc il y a Sheena Mieville, qui est donc un romancier anglais, qui a une phrase que je trouve extrêmement intéressante, parce qu'en plus on va partir du phallus pour s'en éloigner. C'est, oui, bon,
Belle phrase.
passez-moi la formule. La pieuvre est au weird ce que le squelette était au romantisme, mais dénué de sens et de symbole. La tentacule est l'absence de symbole, il n'y a pas de phallus dans le tentacule de la weird fiction. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'image de l'horreur gothique, par exemple, ou de l'horreur romantique, ça, Guillaume aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus, c'est le crâne. Mais le crâne, il a une histoire, déjà parce qu'un crâne, c'est humain, par définition, c'est ce qui reste d'un être humain mort. Et puis, il est lié aux vanités, il est lié à toute une histoire, alors que le tentacule du weird, c'est une forme pure, en fait. C'est une pure, c'est de la, c'est de la matière purement agissante qui ne renvoie pas à un imaginaire humain sur l'animal.
Ce qui est intéressant avec cette forme, enfin le poulpe a un avantage d'un point de vue de la fiction horrifique, c'est qu'il touche par beaucoup d'aspects directement à des catégories qui relèvent du monstrueux. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui touche à l'informe, c'est des choses qu'on va sans doute réévoquer par la suite, hein, mais qui touche à l'informe, qui touche qui relève vraiment d'une organicité très forte. Et on parlait du rapport justement à la représentation plus traditionnelle de la mort à travers les squelettes, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut voir notamment dans le type de représentation depuis le Moyen Âge, à travers la Renaissance et même le Baroque, où on va avoir des représentations de squelettes qui vont être une représentation de la mort qui va être ce que son nom m'échappe. Hicham Stéphane a fait ça, qui a travaillé sur cette thématique-là dans un ouvrage qui s'appelle Esthétique de la charogne. Il a travaillé sur une distinction entre ce qu'on va pouvoir appeler la mort sèche et la mort humide. Et la mort sèche, c'est la représentation tout à fait convenable du défunt. C'est les petits squelettes qui dansent dans les bas-reliefs. C'est toutes ces représentations-là. Et alors que la mort humide, c'est ce qui va être non pas du côté des gisants, mais des transis, c'est-à-dire des représentations qu'on a par exemple sculpturales sur, par exemple, des pierres tombales, où on va avoir des morts qui sont représentées vraiment en état de décomposition, c'est-à-dire une mort humide, une mort organique. Et finalement, ce poulpe, il nous renvoie à toute cette organicité et à tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans le corps, et ce qu'il y a à voir clairement aussi bien d'un point de vue de la conception fictionnelle du monstre que de sa vision médicale et biologique, à toute une organicité qui relève du domaine du refoulé, de tout ce qui est à l'intérieur du corps et qu'on n'a pas envie de voir. Finalement, un poulpe, il n'y a rien qui ressemble plus à travers son tentacule, à des boyaux, à des organes qui relèvent de quelque chose de cryptique, de caché, et qui n'est pas fait pour être vu, en tout cas qu'on a rarement l'envie de voir.
Ouais. Mais Guillaume, du coup, j'ai juste une question par rapport. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un décalage et un saut à travers le poulpe par rapport à une vision très hygiéniste du corps, où justement, on n'a pas du tout envie de voir ces boyaux, ces chairs en décomposition et la décomposition naturelle du corps une fois qu'il est décédé. Comment tu expliquerais ça socialement? Justement, est-ce qu'il y aurait une explication de comment on en est passé au romantisme, où on voyait vraiment la vanité avec une très grande continuité, avec des angoisses propres aux vivants, aux humains vivants, je veux dire, alors que là, le tentacule, justement, on franchit quand même un énorme saut qui fait qu'on se dégage totalement d'une vision humaine. Je parlais de l'humain, justement.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. À mon avis, ça ne peut pas se résumer à ça, mais à un simple facteur qui expliquerait tout cela. Mais si on part du principe que le poulpe et le tentacule, c'est vraiment un motif. Alors moi, du coup, j'y vais avec mon approche analyse d'image, mais c'est un motif en tant que tel. C'est un motif qui relève de l'organique et de l'organicité. Si on oublie le côté marin pour l'instant, il s'inscrit finalement dans tout un développement d'iconographie qui trouve des traces et qui a son ADN dans des peintures beaucoup plus anciennes. On pourrait déjà démarrer avec le baroque, mais même on trouve encore des choses avant, notamment dans la céroplastie, dans tout ce qui est sculpture en cire, qui est notamment toute une tradition des cires médicales. Mais il y a quand même une représentation et voire même une fabrication d'organes et toute une tradition d'une iconographie comme ça qui s'est mise en œuvre et qu'on va retrouver même à des périodes qui ont l'air de mettre ça plus de côté au moment des Lumières, etc., où justement toute la représentation médicale prend beaucoup d'ampleur. C'est en fait, tout ça pour dire que le tentacule correspond bien à une version, presque une synthèse de toute cette esthétique-là. Ça qui est assez intéressant, c'est que on a une double valence, avec d'un côté le côté organique, médical, repoussant, qui hérite de toute cette tradition de la représentation du corps, souvent liée aux représentations médicales, sur lequel vient s'ajouter en plus tout le passage par l'art moderne et contemporain, qui va introduire la notion de dégoût, abject de manière très frontale. Et là-dessus, on rajoute le fait que, comme on l'a évoqué avant, historiquement, culturellement, notre ami le poulpe, il charrie toute une histoire avec lui, de récits d'aventures, de choses comme ça. Et je pense que les deux mélangés font qu'on a à la fois quelque chose qui va nous amener du côté d'un imaginaire très ouvert, très vaste, une idée d'aventure, qui est parfait pour tisser des récits, et c'est ce que va faire Lovecraft, hein, pour remonter à lui. Mais on a vraiment l'idée d'aventure et d'exotisme aussi, parce que prendre la mer, voilà, chez Lovecraft, le fait de prendre la mer, ça renvoie à Jules Verne, ça renvoie à plein de choses. À côté de ça, on a cette imagerie médicale et cette représentation du corps dans ce que ça a plus dégoûtant au sens vraiment de l'abject. Et les deux sont tissés. C'est pour ça que peut-être que cette figure-là, dans le cadre de la SF, de la weird fiction, a pris autant d'importance. Enfin, voilà, c'est une théorie que je vous lance comme ça au débotté. Hein. Mais j'y ai pas réfléchi pendant 6 mois. Mais dans l'idée, ça me paraît assez plausible dans la mesure où il y a cette double valence entre l'imaginaire pur. Qui renvoie à l'aventure et un imaginaire qui serait de l'ordre du médical et du coup de tous les trucs dans lesquels on n'a pas envie de mettre les doigts.
Ça va un peu avec dans la définition de Mieville aussi, il voit comme fiction comme quelque chose qui évoque un sens du lumineux, donc du coup qui serait à la fois mystérieux et terrifiant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement incarné par le tentacule, enfin, ou même le tentacule, plus que le poulpe peut-être. Parce que d'un côté, on a un rappel des richesses de notre monde naturel, mais aussi tout ce qui relève du domaine de l'incompréhensible.
C'est ça. Terrifiant, quoi.
Un tentacule démembré pour nous rappeler notre propre matérialité. Quoi.
C'est ça, c'est vraiment la matérialité qui est intéressante, parce que tu parlais de l'analogie avec les viscères, et moi c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre dans la lecture de texte, mais on aurait pu mettre une charogne de Baudelaire. Parce qu'une charogne de Baudelaire, c'est vraiment ça. C'est,
enfin, oui.
Voilà, vous voyez, votre corps, ma bien-aimée, sera bientôt un amas de viande en décomposition comme ce cheval. Mais au-delà de la monstration, parce que c'est un truc dont on va beaucoup parler, qui est la monstration des viscères, et c'est vrai que le tentacule, ça montre l'intérieur, c'est quelque chose de repoussant, il n'y a pas du tout la forme, on va en parler aussi de ça, mais il y a simplement la monstration de la matérialité nue. C'est vraiment, bah, c'est un peu ce que disait Julie sur le lumineux. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, donc, de Graham Harman, qui est donc un philosophe américain, qui est dans 68, qui est un peu le chef de file de ce qu'on appelle le réalisme spéculatif, dont on parlera dans une prochaine émission, notamment avec Quentin Meillassou, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses-là, et en lien avec l'horreur. Mais ce qui donc il dit justement qu'un de ses amis lui disait mais je vois pas en quoi Cthulhu fait peur, c'est juste une sorte de pieuvre, enfin une sorte de dragon avec une tête de pieuvre. Et il disait mais non, faut pas comprendre Cthulhu comme une sorte de créature justement issue d'une mythologie ou d'un bestiaire, comme un monstre, un dieu égyptien où on met une tête de chien sur un corps d'homme. C'est pas un assemblage, c'est un moyen de nous donner à voir quelque chose qui va au-delà de ça. C'est un moyen de nous donner à voir une sorte de matérialité d'étrangeté pure. Faut pas le prendre pour une chimère, en fait. Et il y a donc la fameuse phrase de Houellebecq dans son essai sur... chaque fois que je cite Houellebecq, il y a Lucille qui grince les dents.
Mais dans son essai sur Lovecraft,
avec un bouquin incroyable, malheureusement, quoi qu'on pense de Houellebecq par ailleurs. Et donc il dit, qu'est-ce que c'est que le grand Cthulhu? C'est juste un arrangement d'électrons comme nous. Et c'est ça, c'est vraiment un rapport très très différent à, bah, justement, à la matérialité et à l'horreur. Ça nous montre quelque chose qui est en dehors, mais qui finalement nous ramène à ce qui est en dedans, quoi.
D'ailleurs, au niveau de, si on aborde cette question-là, au niveau de l'apparence même de cet animal, il y a vraiment j'ai envie de dire que le ver est dans le fruit, c'est-à-dire que, et dans la manière dont on l'a lu, nous, en tant qu'être humain, de notre point de vue humain, c'est simplement la manière dont on l'a nommé, un céphalopode. Déjà, on a une expression qui indique bien qu'on lui a trouvé immédiatement un caractère monstrueux, une tête sur des pattes. A priori, il y a un souci, d'autant plus que ces pattes, en l'occurrence, n'en sont pas, et en plus, elles sont multiples et beaucoup trop nombreuses par rapport à ce qu'on s'attendrait à voir sur un animal. Et on a à la fois à mon avis, cette étrangeté qui provient du fait que on a voulu absolument, peut-être presque pour rationaliser cet animal, y trouver un assemblage, voilà, complètement chimérique et dont on sait qu'il peut être facilement démonté pour éviter d'avoir trop peur. C'est-à-dire que c'est le propre des chimères, hein, c'est ce que va nous dire Descartes dans les méditations métaphysiques, c'est que la chimère, elle fait pas vraiment peur parce qu'on est capable de désassembler chaque partie pour se rendre compte de ce qu'a fait l'artiste derrière. Donc on a dit céphalopode, ok, d'accord. Sauf qu'en réalité, c'est justement, on parlait de cette unité d'électrons c'est cette recomposition d'électrons comme nous, c'est qu'en réalité il n'y a aucune couture apparente sur un poulpe, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est un corps qui a une unicité et finalement la grande étrangeté de cette chose, c'est qu'elle a l'air, c'est un peu le même syndrome que l'ornithorynque, hein. Ça a l'air d'être un truc assemblé dans tous les sens, alors qu'en réalité il y a une véritable continuité d'un point de vue de sa morphologie. Et je pense que voilà, il y a cet élément-là qui en fait tout de suite un objet complètement étonnant, en plus d'être intrigant parce qu'il provient des profondeurs.
C'est un intérieur, parce que moi ça m'a fait penser en vous écoutant qu'en fait le poulpe finalement c'est un intérieur qu'on voit à l'extérieur, qui renvoie aux viscères, qui renvoie aux profondeurs de la mer, et que finalement peut-être cette absence de couture fait que c'est comme si c'était quelque chose de l'intérieur qui avait été retourné, comme un gant de toilette on va dire, et qui renvoie un peu comme ça, à l'idée d'une seule forme, parce que elle est intérieure, et on peut penser que comme c'est intérieur, il n'y a pas besoin de faire des coutures.
Et c'est vrai qu'une pieuvre, quand on la voit, on a du mal à la découper, justement, parce que par rapport à un mammifère, bon, ça on va en parler, parce que là on est en train d'un petit peu prendre de l'avance sur ce qu'on va dire après, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, contrairement à, alors c'est intéressant, il y a un passage de la fin de There Are More Things, qui est un texte de Borges, qui est un texte écrit en référence à Lovecraft, et donc je vais peut-être la dernière partie juste vous lire, parce qu'elle est vraiment, intéressante. C'est, pour voir une chose, il faut la comprendre. Un fauteuil présuppose le corps humain, ses articulations, ses divers membres. Des ciseaux présupposent l'action de couper. Que dire d'une lampe ou d'un véhicule? Le sauvage ne perçoit pas la Bible du missionnaire. Le passager d'un bateau ne voit pas les mêmes cordages que les hommes d'équipage. Si nous avions une réelle vision de l'univers, peut-être pourrions-nous le comprendre. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on voit un être humain, on voit une main, on voit l'usage qu'aura cette main. Dans une pieuvre, l'usage, il est beaucoup plus flou. Et c'est, je pense, pour ça que ça lie, et ben ça on va en parler par rapport à Melville et à d'autres choses, la pieuvre nous donne est un moyen d'avoir accès à quelque part à la chose en soi, on pourrait presque dire, parce que ça nous montre une forme brute, matérielle comme ça, dont on n'arrive pas à découper le sens pour lui donner un sens humain, quelque part. Et c'est quelque chose notamment que nous fait très bien ressentir le deuxième texte, la deuxième lecture de cet épisode, qui est un extrait évidemment de Moby Dick d'Herman Melville.
Moby Dick, chapitre 59, le calmar. Les quatre pirogues furent bientôt à l'eau et celle d'Achab, en tête, nagea vigoureusement vers sa proie. Celle-ci plongea aussitôt. Tandis que, les avirons hauts, nous attendions qu'elle réapparaisse, voici qu'elle émergea lentement à l'endroit précis où elle s'était enfoncée. Oubliant presque pour l'instant, nous contemplions le prodigieux phénomène que les mers secrètes aient jusqu'à ce jour révélé à l'homme. Une vaste masse pulpeuse, d'une envergure fabuleuse, d'un blanc éblouissant, flottait à la surface de l'eau. Des bras innombrables rayonnaient de son centre, se levaient et se tordaient tel un nid d'anaconda, comme pour saisir aveuglément ce qui pourrait par malheur se trouver à leur portée. Masse uniforme, elle n'avait point de visage, rien qui pût permettre de lui prêter un instinct et des sensations, mais elle ondulait là sur la houle, surnaturelle, informe image incompréhensible de la vie.
Image incompréhensible de la vie, on est complètement dans ce qu'on disait avant. C'est oui. La vie donnée, le donné à l'état pur, le vivant, dans tout ce qu'il peut avoir de terrifiant aussi.
Et justement, où en tant qu'humain, on n'arrive absolument pas à lui donner de sens, et ce qui rajoute à l'horreur.
Oui, ouais. bien évidemment.
C'est intéressant aussi de constater que dans les représentations horrifiques, tu prends les tentacules, mais sans savoir à quelle créature ils appartiennent nécessairement. Enfin, je pense à The Mist de Franck Darabont, où tu as des espèces de tentacules qui sortent de la brume et qui viennent s'emparer d'un employé de supermarché pour le tirer dehors. Et ce qui est absolument terrifiant, c'est que tu te dis, mais à quelle créature peut bien appartenir ce membre, en fait, quoi. Il y a ce truc,
oui. Parce que le cerveau n'arrive pas à recréer, comme il verrait à partir d'une main, à partir d'un organe ou d'une griffe ou de quoi que ce soit, ou d'une aile, il arriverait à recréer un peu, il aura une sorte de prototype de ce qu'il y a de l'autre côté, alors qu'avec le tentacule, il ne l'a pas.
C'est ce qu'on retrouve déjà dans les illustrations de Jules Verne avec le 20 milieux sous les mers, avec une gravure assez célèbre de l'attaque du Nautilus par cette sorte de Kraken, où on a avant tout les tentacules qui sortent de l'eau et qui prennent le sous-marin sans qu'on voit véritablement la créature. Et finalement, les tentacules sont plus un motif de peur que la créature en elle-même. Parce que la peur, c'est même pas d'être mangé par la créature. La peur, c'est d'être capturé et d'être emmené sous les flots par la créature.
C'est ça, parce qu'en plus, c'est une créature qui est tellement étrange que de la même façon qu'on peut pas prédire vraiment à quoi ressemble son corps, c'est difficile de prédire ses intentions aussi.
Oui, et tout en gardant l'idée qu'en plus d'avoir des tentacules et d'être bizarre, cette créature a un bec.
Oui, ce qui la rend encore plus étrange. D'ailleurs, en parlant de choses étranges écrites sur ce passage de Moby Dick, il y a un texte de Gilles Deleuze à ce sujet qui est assez intéressant, je crois, Jean-Christophe.
Dans son cours sur Foucault, il va citer longuement des passages de Moby Dick, et notamment un moment où, en fait, il l'attrape avec sa ligne et... Et il y a la ligne qui accélère comme ça, et tout le monde se retrouve un peu entremêlé, et en fait ça résout toute la question. Enfin, la question dont on parlait avant sur la question des formes, etc. C'est que ce que va voir Deleuze dans ce passage, c'est la question de la vitesse. Il va dire il sort cette phrase avant. Qu'est-ce qui est pire que le pouvoir, c'est la vitesse. Et il renvoie ça à ce qu'il appelle la ligne de fuite, qui est un dehors, en fait, qui renvoie à un dehors, ce qu'il appelle la ligne de dehors, sachant que Deleuze, l'utilisation qu'il fait du dehors, ce n'est pas l'extérieur. Il dit que c'est encore plus extérieur que tout, est encore plus lointain que tout extérieur, et encore plus intérieur que tout intérieur.
Alors ça, c'est intéressant de dire, on va parler de la question du grand dehors et du grand extérieur, notamment quand on parlera de Meyasu plus tard. Mais par contre, je vois pas trop le lien avec la vitesse dans ce que tu viens de nous dire.
Oui, parce qu'en fait, ça vient après. Et en fait, ce dehors, un moment, Deleuze, ce dehors, pour lui, c'est quelque chose qui est en constante fuite, en fait. C'est pour ça qu'il y a une phrase célèbre de lui où il dit « La société, elle ne fait… » En fait, les gouvernements cherchent absolument à rattraper la fuite. Enfin, il parle de la société, plutôt de la société. En fait, un monde qui fuit constamment, quoi. C'est un flux. Et là-dessus, il va parler du corps sans organes, donc c'est là où ça renvoie le poulpe. C'est-à-dire que c'est emprunté à Artaud, en fait, d'un poème de Artaud où il parle du corps sans organes.
Le poème s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu ».
C'est un corps qui serait plus arrêté par les organes, parce que qui dit organe dit coupure, et, et ça ralentit la vitesse.
Mais il y a un autre poète à qui Deleuze fait référence aussi dans ce texte-là, c'est Michaud, et il cite une phrase géniale de Michaud, qui est une à propos de cette ligne, dans le texte de Melville, sur une ligne qui se brise en mille aberrations. Et ça, je trouve ça absolument génial.
C'est magnifique.
Ah oui, c'est vrai, dans Michaud, c'est dans Misérable Miracle où il parle de son rapport à la drogue. Et il a un terme, Michaud aussi, qui dit, il dit je, là, il parle de l'accéléré linéaire que j'étais devenu. Donc, c'est toute la notion de la vitesse. Et ça renvoie à ce qu'il dit sur Geoffroy Saint-Hilaire. Geoffroy Saint-Hilaire, en fait, ce qui fait la différence d'espèce, c'est pas des différences de forme et d'organisation, contrairement à Cuvier, c'est des différences de vitesse. Deleuze est complètement, on va dire, admiratif de cette théorie de différencier les espèces selon leur niveau de vitesse, et que finalement, la différence entre un poulpe et un homme serait que la vitesse, finalement, et le temps où on en est arrivé, quoi.
Alors après, il y a une autre définition pour les. On parlait des différences entre différentes espèces. Et il y a une définition qui est intéressante qui va nous ramener, que j'ai trouvé aussi en lien avec ce qu'on disait. C'est la question. C'est proposé par un philosophe tchèque qui s'appelle Wilhelm Flusser. Et il dit qu'il s'étonne que l'existentialisme, notamment, soit beaucoup intéressé à la question du dégoût. Ça, on en a parlé, on va en reparler. Mais il n'a jamais tenté, l'existentialisme, de se poser la question d'un dégoût biologique ou d'un existentialisme biologique. Et il dit qu'il faudrait une hypothèse qui serait le dégoût récapitule la phylogénèse. Et je trouve que déjà c'est aussi un très bon résumé. Et ça me rappelle ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un lien justement avec la question du dégoût, avec le fait qu'on est dégoûté par justement ce qu'on ne peut pas interpréter parce que c'est trop éloigné de nous sur l'arbre phylogénétique. Hein. C'est pour ça que les gens échangent des photos de chatons mignons et rarement des photos d'invertébrés. Il y en a, hein, mais il y en a moins. Et ça nous ramène aussi évidemment à la question du dégoût et de l'abjection chez Kristeva, dont Guillaume Béchelier va vouloir nous parler, je pense.
Mais tout à fait, oui, ça fait partie de mes petites marottes. Et d'ailleurs, ça me fait penser, juste pour avant de démarrer là-dessus, cette idée d'un dégoût du biologique, ça me fait penser, vu qu'on est dans la weird fiction, ça me fait penser à la fameuse trilogie du Rempart Sud de Jeff Vandermeer, où justement un des enjeux de la construction des personnages du livre, c'est justement ce rapport à la transformation du biologique et ce dégoût. Sachant qu'on part sur un. Vous avez peut-être vu le film Annihilation sur Netflix, qui est
Génial,
bon.
chef-d'œuvre, voyez-le si vous n'avez pas
Voilà.
vu.
Nous sommes d'accord, il est très très chouette, mais le livre est encore mieux. Et les trois livres notamment vont de plus en plus vers quelque chose, démarrent sur quelque chose qui ressemble à la SF, puis ensuite de l'espionnage, et ça se termine sur quelque chose complètement Lovecraftien, avec des questionnements justement autour du dégoût de qu'être vivant. Et c'est assez puissant dans son genre, et c'est très bien écrit par la même occasion.
Sans spoiler le film, on peut quand même dire que c'est vraiment. Ce qui fait sa particularité, au-delà du fait qu'il n'y a que des héroïnes et aucun personnage principal masculin, ce qui est déjà
Dans
notable,
le livre aussi.
dans le
Dans
livre
le
aussi,
livre aussi.
c'est que y a, on se retrouve dans une sorte de lieu un peu hors du monde, enfin un endroit, une zone où les règles de la physique ne s'appliquent pas. Hein, c'est ce qu'on a vu dans ce qu'on voit dans La couleur tombée du ciel ou dans Stoker ou dans des films comme ça, ou dans les livres comme ça. Mais là, c'est une sorte d'abondance de vie. On n'est pas dans la mort justement. C'est une sorte d'abondance de vie qui va créer l'horreur. Et ça, c'est assez intéressant.
Mais c'est d'autant plus intéressant que le parcours de Jeff Vandermeer enfin, aide à comprendre ça dans le sens où lui-même est passionné de biologie et du vivant, ses parents étant eux-mêmes des biologistes. Voilà, il a grandi au milieu de recherches scientifiques autour du vivant. Il va justement, un des partis pris du livre, c'est de voir comment, si on peut le voir, c'est l'impression que donne Annihilation et qui s'évapore un peu sur la suite, parce qu'on part dans dans Autorité. Et dans le troisième tome, on part sur d'autres problématiques, ça s'élargit, mais on a un peu l'impression que c'est la nature qui reprend ses droits, la fameuse expression qu'on a tant entendue pendant le confinement, la nature reprend ses droits, sauf que la nature révèle entre guillemets son pouvoir le plus monstrueux, qui est le pouvoir de transformation et d'adaptation et d'évolution en fait. Et ça, c'est utilisé, c'est là où ça résonne vraiment avec notre problématique une sorte de rapport au vivant et à la nature qui serait angoissant et monstrueux, dans le sens où ce qui est à la fois un signe de vitalité totale, à savoir ce vivant, ces fleurs qui poussent dans tous les sens. Il y a un travail, ils ont fait bosser une quantité de fleuristes sur le film qui est assez incroyable. Il y a un travail sur les décors qui est dingo. Mais en même temps, c'est ce côté foisonnant qui devient quelque chose de monstrueux et d'inquiétant. Qui pousse à avoir un rejet les personnages qui les poussent, eux, et c'est vraiment très très bien expliqué dans le livre, à avoir un rejet de ce qui pourrait relever du vivant et que ça en amène, pour revenir sur la thématique, à quelque chose qui touche justement à des substances qui vont avoir l'air d'être dégoûtantes. C'est-à-dire ce foisonnement de vie de plantes, de champignons, de spores devient quelque chose de littéralement monstrueux et renvoie à l'idée qu'on est confronté à des matières, à des textures. nature à des choses qui vont évoquer le dégoût, l'abject. Ça, c'est quelque chose pour revenir sur ce pourquoi j'étais censé parler au départ.
Peut-être juste définir ce que Christéva entend par l'abject, parce que c'est une définition particulière.
L'abject, l'abjection, c'est une force, un pouvoir de fascination. Elle en parle dans un ouvrage qui s'appelle Le pouvoir de l'horreur. C'est une force de fascination qui a une sorte de double effet d'élan qui consiste à la fois à attirer et à repousser. Et que finalement, le rapport qu'on établit, la relation qu'on établit avec l'abjection, c'est une relation qui est à la fois dans le rejet de ce qui renvoie à des choses qui relèvent de la mort et qui relèvent du rejet absolu, et quelque chose qui ne peut pas, dont on ne peut pas détacher le regard. C'est vraiment le truc vraiment dégueu dans lequel on n'a pas envie de mettre les pieds, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. C'est vraiment
c'est
ça l'idée.
C'est le sublime du dégueu.
C'est exactement ça, c'est le sublime du truc par terre. Et justement, c'est quelque chose qui a été qui a ouvert énormément de pistes et qui a été énormément travaillé d'un point de vue du notamment au niveau de l'art contemporain et par beaucoup d'artistes, et qu'on retrouve notamment dans les écrits de Rosalind Krauss, qui est une historienne de l'art, théoricienne, qui a beaucoup écrit sur la sculpture, notamment la sculpture américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui justement qui fait appel à Christéva pour analyser certaines manière de concevoir des œuvres, notamment avec le post-minimalisme, qui vont aller vers des choses qui sont dans la forme, qui sont dans la sculpture déconstruite, tout ce qui ne devrait pas être une sculpture, en fait, la sculpture mise à plat. Et quand elle parle de l'abject chez Christéva, elle dit justement que ce qui est assez intéressant, c'est que ça converge vers l'analyse sartrienne du visqueux, de ce qui est ni liquide ni solide, mais quelque part entre deux états. Et c'est vraiment cette idée-là du visqueux, tout ce que ça convoque comme champ lexical autour des sointements, de la labilité, de la coulure, et de tout ce qui est compromis, tout ce qui relève vraiment de l'abject, c'est-à-dire de ce vers quoi on ne peut pas aller parce qu'on ne peut pas s'en saisir, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le comprendre, comme ce poulpe dont on voit la forme et dont on ne sait pas où est le début, où est la fin, et surtout dont on n'est pas capable de prévoir les mouvements, les ondulations. C'est le pouvoir du dieu Protée, hein, et ce pouvoir-là, on l'attribuait au poulpe, et c'est exactement ce même pouvoir qui devient un énorme problème, parce que c'est cet ondoiement-là, c'est cette capacité d'être mouvant qui va nous donner un sentiment d'abjection très fort et qui est un moteur très très intéressant dans la relation à l'image et dans la relation aux choses, qui est beaucoup utilisée pour le film d'horreur, pour le jeu vidéo d'horreur, des choses qu'on peut retrouver chez Lovecraft avec des personnages qui vous décrivent en long, en large, en travers, qu'ils ont qu'une envie c'est de partir, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder ce qu'ils voient, parce qu'il y a une force comme ça, un pouvoir de capture du regard dans les créatures lovecraftiennes qui est vraiment au cœur de leur force.
Mais d'ailleurs, tu parlais de Sartre, et c'est vrai que dans les lectures auxquelles vous avez échappé, on pourrait rajouter les passages de la nausée, parce qu'il y a un passage, je crois que c'est Roquentin, ça, le héros de la nausée, hein, qui il se retrouve dans un square, et d'un coup, il est frappé justement par la contingence des choses, et il se dit, mais ces arbres qui m'entourent, ils pourraient pourrir et se liquéfier devant moi. Et ça, c'est vraiment, on rejoint un peu ce qu'on avait sur la question de l'existentialisme biologique. C'est de dire, on se rend compte, justement, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, hein, que finalement, derrière les beaux découpages qu'on a fait dans le réel, avec voilà, ceci est un arbre, c'est un chêne, il bougera pas, finalement, c'est une sorte de matière en perpétuelle évolution, et qui potentiellement peut devenir visqueuse. Et le potentiel du visqueux est toujours là, quoi.
Et avec un visqueux qui va être justement un début d'ouverture vers autre chose. Oui. Je parlais de l'esthétique de la charogne tout à l'heure, de cet ouvrage, et justement, un des premiers passages de l'ouvrage, c'est une analyse écologique de l'horreur et une analyse écologique de la charogne et de la déperdition des matières. Et il y a tout un passage très très intéressant qui explique, alors c'est appuyé sur des études scientifiques, hein, qui explique que le vivant a pu prendre la forme qu'on connaît justement grâce à ce processus de décomposition du vivant, et que finalement, notamment, alors il y a toute une explication, alors moi j'ai pas les connaissances scientifiques pour le décrire, mais toute une explication autour du développement des végétaux et des arbres, et du fait qu'il a fallu attendre visiblement, alors là je vous parle en millions d'années, là on est dans des, comme dirait Lovecraft, dans des éons de temps, mais on est sur des périodes où il a fallu attendre l'apparition de certaines bactéries capables de faire se décomposer le bois pour que de la végétation puisse fonctionner et que tout un cycle de vie puisse se mettre en place. Donc c'est un des points de départ de cet ouvrage, Les Cycles de la Charogne, c'est de voir à quel point la mort est nécessaire à la vie et que les choses peuvent partir, on peut boucler la boucle dans l'autre sens en fait. Et ce qui fait que et si on retrouvait un peu de positif dans ce poulpe déconfit, il y a un cycle de vie quand même qui se cache derrière tout ça.
Et ça, c'est intéressant. Alors ça, il faudrait laisser Julie et Lucie là, en parler. Parce que c'est nos deux scientifiques on board. Mais c'est vrai que quand on voit notamment des choses qui sont faites actuellement sur l'embryogenèse, on se rend compte que l'embryogenèse peut être expliquée en partie avec des processus darwiniens de sélection à l'intérieur du fœtus lui-même. Et c'est assez terrifiant de voir que finalement tout se dévore en permanence, quoi. Et c'est pas très rassurant sur la stabilité du monde. Sur ces considérations très gaies, on va passer à la dernière lecture, qui est un texte de Clark Ashton Smith, donc un nouvelliste et poète du début XXe siècle, qui a notamment écrit dans Weird Tales où écrivait Lovecraft. Et bien, c'est Lucille Bokobza, comme d'habitude, qui va nous lire ce texte.
Les sept sortilèges de Clark Ashton Smith. Puis, dans le crépuscule sulfureux, il vit que Raftonti s'était arrêté. Et sous les ailes du démoniaque oiseau, il aperçut une sorte de bassin au bord fangeux où flottaient les plus obscènes détritus. Et dans cette mare, croupissait une épouvantable masse de couleurs grisâtres qui la remplissait presque entièrement. Ici, semblait-il, se tenait la source ultime de toute abomination, de toute monstruosité. La masse grise remuait en frémissant, soulevée par une ébullition perpétuelle qui la gonflait de toutes parts. Et par des scissions variées, des créatures difformes ne cessaient de s'échapper d'elle pour partir ensuite en rampant aux quatre coins de la grotte. On distinguait des choses semblables à des jambes ou des bras sans corps qui barbotaient dans le limon, des têtes qui roulaient ou des ventres pataugeant avec des nageoires de poissons, et toute une cohorte de créatures ignobles et informes qui grandissaient en taille après s'être séparées d'Aboth. Et celles qui n'étaient pas assez rapides pour gagner la rive à temps retombaient dans le bassin où elles étaient englouties par les multiples bouches qui baient dans les flancs de la masse matricielle. Rally Barouze avait dépensé toute pensée, toute épouvante, toute fatigue. Sinon, il aurait éprouvé une honte intolérable à la vue de cette fange, que les archétypes lui avaient désignée comme sa destination la plus appropriée. Une torpeur voisine de la mort avait envahi son esprit et paralysé toutes ses facultés.
On est vraiment dans l'acmé du Lovecraft, et évidemment, on pense forcément à une chose quand on entend ce passage, c'est à, peut-être, si Lovecraft est l'auteur du weird en littérature, il y a un film du weird, et de l'informe et de la pieuvre, c'est The Thing de Carpenter. Et alors là, tout le monde aura sûrement des choses à dire dessus, je propose peut-être que Julie en parle, parce que là, on l'a un peu moins entendu que les autres, et je sais que t'adores The Thing, donc...
Mais j'adore The Thing et j'adore la créature de The Thing, donc une espèce d'organisme extraterrestre qui peut imiter à la perfection en fait tous les humains qu'elle voit. Donc dans une base en Antarctique aux confins de l'humanité vraiment. Et il y a ce truc qui est complètement fascinant dans le sens où c'est une créature qui ne ressemble vraiment à rien mais qui peut potentiellement devenir tout. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a, j'ai beaucoup pensé, on parlait d'annihilation tout à l'heure, mais il y a cette espèce de monstre qui peut reproduire les voix des gens qui a tué, qui m'a rappelé immédiatement The Thing, quoi. Et qui a, qui est vraiment un film exceptionnel, quoi. Qui doit beaucoup, beaucoup à Rob Bottin, donc qui était en charge des effets spéciaux. Et à l'époque, donc, c'était pas des effets visuels, c'était vraiment des animatroniques. Donc, on a vraiment cette espèce de créature qui bouge à l'écran et qui est vraiment là, quoi. Et qui s'est traduit en vraie horreur, d'ailleurs, pour Rob Bottin, hein, qui, me semble, avait 22 ans à l'époque et a fini à l'hôpital avec une pneumonie, un ulcère et... Mais ouais, je pense qu'il a mis beaucoup, beaucoup de lui dans cette créature, ouais.
Oui.
Moi, il y a inquiétant un... comme ça.
Donc, peut-être Guillaume, qui est aussi un grand, grand fan de The Thing.
Je trouvais ça très très inquiétant, cette manière dont c'était tourné, fini le tournage. Mais effectivement, oui, The Thing, pour le coup, il y a énormément de choses à dire. Et moi, la petite note que j'avais mise de côté pour parler de The Thing, c'était notamment un extrait d'un ouvrage que je vous conseille très vivement à propos de The Thing, de Sophie Solnitschkine, je dois écorcher son nom malheureusement, qui a un livre qui s'appelle Esthetica Antarctica, qui est un très très chouette livre d'analyse, c'est de l'analyse filmique, mais à portée, on va dire, esthétique et philosophique. Et il y a tout un, justement, des rapprochements qui vont très très bien avec ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, des rapprochements entre The Thing de Carpenter et Les Montagnes de la Folie de Lovecraft, à travers notamment les créatures des Shoggoths, qui sont ces créatures, ces sortes de limons capables de prendre toutes les formes, mais qui peuvent faire preuve d'une intelligence plus ou moins humaine, mais qui sont surtout doués pour la réplication et l'imitation d'organismes humains ou animaux. Et là, on est clairement dans ce que peut faire The Thing, puisque je vous rappelle qu'on commence avec la créature qui imite d'abord un chien, enfin qui tente, hein, elle n'a pas le temps de finir, vraiment proprement, et avant de se mettre à imiter des humains. Et voilà, on a un rapport au biologique, là on est vraiment dans une horreur qui touche vraiment à quelque chose de qui est vraiment en lien avec le weird, dans le sens où c'est une horreur qui est d'ordre holistique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est capable de tout être, tout et rien en même temps. Et cette créature venue de l'espace, autant dans le premier film, donc la chose venue d'un autre monde, très, très chouette film d'ailleurs en noir et blanc, qui est une sorte de proto-film de monstre moderne, c'est absolument incroyable. On y retrouve tout Alien 3, on y retrouve bien évidemment The Thing parce que Carpenter s'est appuyé dessus. Mais là, dans le choix qui a été fait dans le vieux film, j'ai envie de dire, de Nyby, c'est de proposer une créature végétale capable de se replanter elle-même, mais on reste dans l'idée que cette créature, alors ce qui en fait quelque chose de monstrueux, en dehors du fait qu'elle vienne de l'espace, c'est le fait qu'elle soit capable de se reproduire, de se replanter et de faire des boutures, ce qui est assez étonnant pour un monstre. Mais l'idée est très forte, hein, parce que finalement, des monstres végétaux, on ne voit pas tant que ça.
Et puis le végétal est terrifiant justement parce qu'il n'a pas de centre. Il n'y a pas un cerveau qu'on peut détruire dans un végétal. Et
à partir du moment où on coupe un morceau, le morceau repousse. Ça, c'est ce qu'on le retrouve chez Carpenter. Mais c'est vrai que c'est assez terrible. Mais voilà, on est sur quelque chose de qui reprend cette idée de végétal, alors que, et donc d'un organisme quand même qui, et c'est lié aux effets spéciaux de l'époque, mais qui était beaucoup plus limité à lui-même, beaucoup plus facile à appréhender. Quand même, son concept est compliqué à appréhender. Alors que dans The Thing de Carpenter, là, on évoquait les tentacules. Et d'ailleurs, il a un petit côté tentacule à certaines de ses transformations.
Dans sa forme finale, ouais, il a des tentacules en plus d'avoir une tête de chien et plusieurs membres de l'équipage, quoi. Ouais.
À la fin, ça finit très très mal. Il est vraiment pas beau à voir. Et il a ce côté vraiment organique, extrême, et qui renvoie clairement, on a évoqué Saint-Hilaire tout à l'heure, mais là, on est clairement dans la tératologie et dans l'exhibition de monstruosité au sens tératologique du terme. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est vrai que c'est par rapport à notre thématique, bizarrement, cette créature, cette thing, elle peut paraître assez distincte de notre thème du poulpe, mais en réalité, elle combine un peu tous les atours absolument incroyables du poulpe pour l'exploiter à des fins de fiction.
Il y a, d'ailleurs, tu parlais des Shoggoths, il y a Eugene Tucker, qui est un auteur dont on va parler pas mal, parce qu'il a beaucoup écrit sur les horror studies, sur l'étude des films d'horreur, qui, à propos des Shoggoths, a dit, alors je vais vous le dire en anglais, parce que c'est impossible à traduire, il a dit, le Shoggoth, c'est le biological empty set. Alors, je sais pas comment on traduirait ça, mais en gros, c'est l'ensemble vide biologique. Et The Thing, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est de la chair qui peut prendre à peu près la forme qu'elle veut, mais qui n'a pas vraiment d'attention, c'est même pas pourquoi elle recopie. Et moi, il y a une chose qui m'a toujours fasciné dans The Thing, et j'y avais même pas pensé tout seul, pourtant je l'ai vu 10 fois, mais un jour j'ai entendu ça. En fait, il y a la fameuse scène, si vous avez vu The Thing, où c'est peut-être la scène la plus célèbre, du test sanguin. En gros, ils vont tous donner une goutte de sang pour faire un test et voir qui est la chose. Et ce qui est fascinant dans cette scène, c'est que tous les gens sont terrifiés, tous les personnages. Alors qu'a priori, je devrais, moi, si je passais ce test, ne pas être inquiet. Je sais que je ne suis pas la chose. Mais ils sont quand même inquiets. Et ça, je trouve ça fascinant. Parce qu'il y a quand même vraiment ce côté, mais oui, tu parlais de la monstration de l'intérieur, mais finalement, c'est aussi un... Quelque part, il y a toujours le risque de dire, mais oui, est-ce que finalement, c'est pas aussi moi? Enfin, qu'est-ce que j'en sais, en fait, que je ne suis pas une sorte de chien protéiforme réorganisé? Et ça, je trouvais ça absolument fascinant dans cette scène.
Mais c'est quelque chose qui, d'ailleurs, qu'on voit dans le précédent film. Il y a cette discussion entre les personnages qui se demandent à un moment, est-ce qu'ils le sauront s'ils ont été transformés? Si ça se trouve, je suis la chose, je ne le sais pas. Et donc, ce qui donne une dimension, on parlait du lumineux et de quelque chose de vraiment qui va au-delà de ce que nous sommes. Et il y a vraiment cette idée-là de, c'est, pour le coup, on est clairement dans un existentialisme hardcore. C'est-à-dire que vraiment, est-ce qu'on est même capable d'avoir conscience de qui nous sommes?
Oui, mais c'est la grande question que
pose. Bonsoir.
Dans le nom lui-même est gêné, enfin la chose, ça aurait pu être réalisé par Kant, hein. C'est fascinant. C'est fascinant comme film, quoi.
Je veux voir ce film.
Mais oui.
Bah, moi, j'allais parler de bio-horreur, justement, en écoutant un peu l'échange, parce que j'ai l'impression qu'il y a une horreur basée sur le retour des morts ou sur des êtres du monde des morts. Mais là, ce qui est horrible, c'est la vie en tant que telle. Donc, c'est pour ça que ça nous inclut aussi. Et qu'on est, bah, moi aussi, je le suis, puisque a priori, je suis vivant. Et c'est un peu, voilà, s'il y a le bio-pouvoir de Foucault, il y a le bio-horreur des films d'horreur. Et forcément, ça a toutes les formes parce que si on est dans une posture à la Foucault, c'est que la force, enfin le pouvoir, il a pas de forme, c'est quelque chose d'informel et qui du coup, bah, on est un peu tous pris dedans. On est tous pris dans le pouvoir, tous pris dans la vie, tous pris dans la force. Donc c'est l'horreur même d'être vivant, je pourrais dire d'une certaine façon.
Et c'est vrai que j'avais pas pensé à faire le lien avec le biopouvoir, mais en même temps c'est vrai que bon, on parlait au tout début, on avait commencé ce passage en parlant de la différence entre l'horreur gothique, qui finalement était une horreur du macabre, hein. C'était une horreur beaucoup de la mort, et une horreur qui est toujours présente, et c'est vrai que Eugène Tucker encore en parle dans ce qu'il appelle l'ontologie de la générosité. C'est-à-dire qu'en gros, le terme un peu étrange, mais c'est pas stupide, c'est-à-dire qu'en gros, dans toute la philosophie, notamment la philosophie allemande, il y a l'idée d'un donner de la vie comme une sorte de flux, quelque chose comme ça, mais au bout d'un moment, ça peut prendre une forme terrifiante. Et ça rappelle un peu l'évolution qu'on a connue avec une sorte de vision un peu idéalisée de la nature au 18e, ça Guillaume en parlera sans doute mieux que moi, et qui est devenue petit à petit inquiétante avec le Sturm und Drang, avec des mouvements comme ça au 19e, enfin fin 18e, 19e, on s'est dit, en fait la nature c'est inquiétant. En fait quand on est seul face à une énorme montagne qui peut enfin, il peut y avoir des éboulements, c'est terrifiant la nature. Et là j'ai un peu l'impression que c'est la même chose par rapport au vivant. C'est-à-dire que le vivant c'est merveilleux, c'est un engendrement permanent, regardez les petits bébés qui naissent, mais en fait c'est de la chair qui engendre de la chair, qui engendre de la chair, et c'est terrifiant quoi. J'espère que vous n'avez pas d'enfants.
En avoir,
Effectivement, c'est presque une sorte de sublime, comme le sublime vraiment très romantique. Tu parlais de Sturm und Drang, mais à l'échelle microscopique, quoi. C'est le sublime à l'échelle de ce que l'on voit dans une boîte de pétri.
C'est ça.
Et franchement, oui, The Thing, c'est ça qui est aussi très très intéressant et qui, moi, m'avait marqué chez Huysmans. Il a un petit texte sur Odilon Redon qui est brillant. Bon, avec le brillant, parce que Huysmans, c'est forcément brillant, mais on a un petit texte où il analyse. Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les chimères, avec l'idée que la chimère, ça peut pas vraiment faire peur. Et justement, Huysmans a ce discours-là en expliquant que des siècles de gargouilles sur les cathédrales, ça rend la chose absolument comique et grotesque et qu'il y a assez peu de chances de faire peur aux gens et que le véritable avenir de la peur, et lui il voyait ça dans les œuvres d'Odilon Redon, bon là je le suis un peu moins, c'est des représentations qui relèvent du médical et que finalement ce qui fait peur c'est ce qui est sous la loupe. C'est tout ce qui, on peut dire qu'on est dans une période qui nous prouve qu'effectivement ce qui va sous le microscope peut nous faire peur. Et ça c'est là on est voilà, à la fin du 19e et il a ce discours sur, il y a un basculement qui se fait, on a une évolution, pardon, scientifique et technologique qui nous permet de voir l'infiniment petit, en tout cas ce qui paraissait infiniment petit à l'époque, même si maintenant on peut aller plus loin, et bien ce basculement nous amène vers des nouvelles confrontations, et notamment le fait d'être confronté au vivant et dans le vivant de ce que ça peut avoir de plus mortel pour les autres vivants.
Oui, et surtout ça nous amène, et ça ferait une très bonne conclusion d'ailleurs, et que du coup je vais laisser à Lucille vu que c'est sa spécialité. Simplement la question, et ça aussi, bon, Tucker en parle, Dylan Trigg aussi, qui a écrit un très bon livre aussi qui s'appelle The Thing, Phénoménologie de l'horreur, donc Dylan Trigg, si vous avez l'occasion de le lire, qui est très bien aussi, et ils en parlent tous les deux, ils disent que justement une des questions de ce que Jean-Christophe appelle la bio-horreur, et le mot est très juste, ça pose forcément aussi une question qui est une question finale, c'est qu'est-ce que la vie, où est-ce qu'on pose ses limites?
Ça, on a beaucoup de difficultés encore aujourd'hui. Les biologistes essayent d'établir des consensus, mais qui changent selon les périodes. Quand on a réussi à synthétiser l'urée, donc au XXe siècle, on s'est dit ça y est, on a réussi à créer du vivant en laboratoire. Sauf que finalement, l'urée est un déchet du vivant, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas vraiment le percevoir comme vivant en tant que tel, mais seulement quand il est dans l'hôte, donc dans l'humain ou l'animal. Mais justement, les limites du vivant sont très, très, sont de très bonnes questions en philosophie de la biologie. Parce que même les virus, justement, bon, c'est la période, désolé pour c'est le mauvais timing, mais justement, se servent du corps de leur hôte pour exploiter leurs fonctions qu'on peut déterminer comme vitales dans le sens où elles correspondent aux fonctions d'autres organismes qui sont vivants de manière consensuelle, pour ensuite se développer, se propager. Et justement, les frontières du vivant sont très vastes. Les biologistes ont parfois des avis dessus, dans le sens où ils essayent de se dire, mais après tout, enfin de faire un pas de recul en se disant, après tout, qu'est-ce que j'étudie en laboratoire? Mais d'un point de vue biologique, il n'y a pas de véritable consensus. Et toute la dernière conversation sur la chair qui engendre toujours de la chair me rappelle beaucoup. Moi, mon propre angle d'attaque sur le vivant, qui est avant tout un angle d'attaque écosystémique. Donc, ça veut dire que tout marche par écosystème. Et finalement, quand il y a de l'horreur qui est un être vivant qui n'est pas à sa place, entre guillemets, qui n'accomplit pas ses fonctions et qui justement détruit tout l'écosystème, là, l'horreur se fait présente et on peut penser à, ben, comme on le disait dans la nausée, aux arbres qui tout d'un coup pourraient devenir visqueux, ou à tout ce genre de choses qui, justement, il y a une grande contingence des écosystèmes.
Eh bien, écoute, c'est une conclusion parfaite de conclure en parlant de la limite, puisque ça va nous amener au sujet de la prochaine émission, qui aura lieu dans un mois, et nous parlerons de la limite. Alors, pas de la limite du vivant, mais de la limite de la pensée, de la limite du langage, parce que c'est quelque chose qui est également, on en a un petit peu parlé aujourd'hui déjà, très très présent dans la weird fiction, et on se demandera en quoi est-ce que l'abondance, par exemple, d'adjectifs chez Lovecraft, cette espèce de déluge de mots qui semble courir après une réalité impossible à décrire, le fait aussi d'avoir le hors-champ dans le film d'horreur, hein, le fait de le non-montrer, notamment dans l'horreur moderne, dans l'indicible, dans des films comme In the Mouth of Madness, comment est-ce que c'est un moyen finalement de parvenir à dire sans le dire une réalité immontrable et de dire quelque part l'immontrable du monde, et on se demandera en quoi finalement, même si ça paraît un peu bizarre dit comme ça, c'est pas assez proche de ce qu'ont voulu faire certains écrivains mystiques ou des gens comme Georges Bataille par exemple. Voilà. Tout cela, ce sera dans un mois, dans le prochain épisode de La Saveur de la Finitude. D'ici là, portez-vous bien, et encore une fois, désolé pour ces petits problèmes techniques et audio qu'on a eu sur ce premier épisode, ça sera réglé d'ici à la prochaine fois. À bientôt à tous et à toutes.